franceinter.fr.
Les chiffres, c'est bien connu, ne veulent plus rien dire au-delà d'un certain seuil. Alors c'est vrai pour les grosses sommes d'argent, comme pour la population mondiale. Selon les récents calculs de l'ONU, la Terre gagne chaque année 83 millions d'habitants. Pas évident hein, de se rendre compte de ce que ça signifie, mais il existe des sites internet qui proposent un décompte de la population en temps réel et ça devient tout de suite plus concret. Par exemple, le site population.io qui affiche un compteur. Nous sommes 7 milliards et demi sur Terre et chaque seconde qui passe, des bébés dans le monde entier viennent s'ajouter au total. Il faut avouer que c'est assez fascinant. Alors on sera presque 10 milliards sur Terre en 2050. Question toute bête, faudrait-il arrêter de faire des enfants? Peut-on parler de l'existence d'un dogme nataliste en France? Une natalité vigoureuse serait forcément une bonne nouvelle. Comment sont perçues en France et ailleurs dans le monde celles et ceux qui ne veulent pas se reproduire? Cela pose une question compliquée, évidemment. Pourquoi fait-on des enfants? J'attends vos réactions, chers auditeurs. Vous connaissez le chemin. Sur Twitter, hashtag le débat de midi, via le site franceinter.fr ou grâce à l'application France Inter. Et si on arrêtait de faire des enfants, c'est la question qu'on se met sous la dent jusqu'à 13h.
Dorothée Barba, le débat de midi sur France Inter.
C'est pas
bon, c'est pas bon,
c'est pas
bon, c'est dégoûtant. Des gosses ici,
non mais c'est dingue.
Mais quoi? À 100$ le plat, ils amènent leur chien.
Aux États-Unis, on les appelle les child free. En France, 5% des femmes font le choix de ne pas avoir d'enfants.
Je ne veux pas d'enfants. Voilà, c'est aussi simple que ça. En fait, j'ai pas envie d'imposer ça à quelqu'un, je trouve ça très égoïste de faire des enfants.
Oh, you need a baby.
Need a baby? Mm.
On est enceinte.
Oh mon Et Dieu, c'est une félicitation.
Oui, c'est génial.
Pour une nouvelle, c'est une super.
Ils nous l'ont déjà dit.
Des enfants. Et moi, j'adore les enfants, si vous voulez, mais j'aime que les miens. J'en ai pas.
Un enfant en plus sur cette planète, alors qu'il y a 160 ou 180 millions d'orphelins dans le monde, on est plutôt dans un phénomène de surpopulation.
Oui. D'abord, tu tombes enceinte, c'est que du stress, tu gonfles, t'es obèse, énervé. Bah oui, oui, ça, c'est normal.
Sûr. Mais après, sur le côté positif, il n'y a personne qui dort bien pendant. Quoi, ça dure un an?
Oui, voire deux.
Ça peut rendre méchant.
Trois invités autour de cette table. Alors, je précise d'emblée que ce sont trois femmes. Nous avions aussi invité des hommes, notamment des démographes et des sociologues, mais qui n'étaient pas disponibles en ce mois de juillet. Et peut-être faut-il constater que les intellectuels qui se penchent sur ce sujet sont surtout des femmes. Mais enfin, il est suffisamment fréquent d'entendre des hommes débattre entre eux à la radio ou à la télé pour ne pas s'offusquer quand c'est l'inverse. Bonjour Edith Vallée.
Bonjour.
Vous êtes docteur en psychologie, auteur notamment de « Pas d'enfants pour Athéna », MJW Edition. Vous n'avez pas d'enfants vous-même, mais vous vous intéressez depuis des années à celles qui font le choix de ne pas en avoir. Carole Mann est face à vous. Bonjour.
Bonjour.
Sociologue et historienne, vous avez travaillé notamment sur les bébés. J'adore le titre de ce livre, Chérubins et Morveux, bébés et layettes à travers le temps, édition Pygmalion. Et puis Virginie Resson, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue, vous êtes la directrice d'un laboratoire d'études géopolitiques et prospectives, le LEPAC, auteur d'un livre paru cette année chez Robert Laffont qui nous fait découvrir le monde dans 21 ans. 2038, les futurs du monde. Alors dans ce livre, et j'aimerais qu'on commence par là, vous vous interrogez sur la pertinence de calculs démographiques. C'est une question finalement qu'on ne se pose jamais. À quoi ça sert de compter la population mondiale et d'estimer par exemple combien on sera en 2050 ?
En soi, la population mondiale, ça ne veut pas dire grand-chose. D'abord parce qu'on ne peut pas compter la population mondiale. Il faut rappeler qu'on est sur des évaluations, des estimations, des calculs, mais on n'est pas sur un comptage. Donc en réalité, on n'a pas d'idée très précise de la population mondiale.
C'est plus compliqué que de faire l'appel dans une salle de classe.
Absolument. Oui. Et il y a même des pays où récemment, on s'est rendu compte qu'on est peut-être complètement à côté de la plaque.
Ah oui ?
Oui. Nigeria, par exemple, où on a énormément de mal. Il y a les relevés statistiques sont compliqués, sont difficiles, ça exige beaucoup de moyens. Et donc si on s'appuie sur des chiffres très anciens, en appliquant un taux de fécondité estimé très approximatif, évidemment, on peut arriver à des résultats très très différents, surtout quand la base de population est très importante. Donc ça, c'est la première chose. Il faut faire très attention à la notion de calcul et de comptage. La deuxième chose, c'est qu'il faut se poser la question, quel est le rapport si population mondiale, ça voudrait dire qu'on est uniforme, qu'on est un ensemble cohérent, homogène, etc. En réalité, si vous pensez à quelqu'un qui vit dans la jungle papoue et quelqu'un qui vit à la City de Londres, voilà, vous avez deux personnes qui n'ont strictement rien à voir.
Alors, ceci dit, compter les êtres humains, ça suggère pas qu'ils sont tous les mêmes.
Non, ça suggère pas qu'ils sont tous les mêmes, mais ça suggérerait qu'ils ont un lien. Et le lien entre ces deux personnes, à part d'habiter sur la même planète, il n'est pas du tout évident qu'il y en ait d'autres. Il y a des gens qui ne se rencontreront pas, qui ne mangent pas la même chose, qui n'ont pas les mêmes besoins, qui ne consomment pas la même part de planète, etc., etc. Donc voilà, c'est en fait ce qu'il faut mettre en rapport, c'est la population avec des besoins qui sont produits par la planète.
À quoi servirait-il de calculer combien nous serons en 2050 si les réserves de notre planète étaient infinies, c'est ce que vous écrivez dans votre livre, ou si nous disposions dans l'espace d'une terre de secours. Finalement, la question du nombre d'êtres humains sur Terre, elle masque celle du partage de la planète.
Exactement.
On peut quand même se demander si la planète est surpeuplée, Virginie Resson ?
En tout cas, on peut poser la question. Oui. Après, il y a plusieurs manières d'y répondre. Maintenant, une fois encore, la question est de savoir si c'est la planète qui est surpeuplée, si c'est nos modes de vie qui sont pas adaptés aux ressources de la planète, si on peut consommer autrement. S'il y a beaucoup de questions qui doivent être posées en même temps que celle-là. La surpopulation est une notion relative et donc tout dépend de la façon et du point de vue dont on pose la question.
On voit déjà donc que cet argument de surpopulation pour en faire ou pas des enfants, bien sûr, est soumis à caution.
En plus, ça procède d'une question malthusienne, enfin d'une tradition malthusienne, d'une pensée malthusienne qui est très permanente, très récurrente dans la pensée occidentale en particulier depuis Malthus.
Je me tourne vers Edith Vallée. Celles et ceux qui décident de pas avoir d'enfants le font-ils en partie ou en grande partie pour des raisons démographiques, écologiques?
Alors, moi, j'ai identifié trois grands courants parmi les femmes, surtout, qui faisaient ce choix de ne pas avoir d'enfants. Oui, c'est un argument, mais qui concerne le troisième groupe. Mm-hmm. Dans le premier groupe, l'orientation de vie est surtout le besoin de constituer une relation fusionnelle. Ce sont les grandes amoureuses, les créatrices, les femmes...
Donc c'est l'idée que l'enfant va mettre en péril le couple.
Oui, l'enfant est un intrus dans le couple, c'est tout. Et puis, il y a celles qui veulent absolument marquer le monde de leur empreinte. On peut penser aux entrepreneuses, ce sont des femmes, des businesswomen, des femmes très indépendantes et qui revendiquent d'une certaine façon une certaine part de masculinité aussi. Et elles se donnent toujours des enjeux forts. Tandis que le premier groupe, celle qui recherche une relation fusionnelle, essaye de renouer avec une sorte de paradis perdu. Voilà, ce sont deux grandes orientations qui ne sont pas du tout liées à des questions idéologiques. Mmh. Le troisième groupe, rompre. Alors, elles veulent rompre soit avec leur passé, parce qu'elles pensent avoir une génération, pâtir de générations qui les fragilisent et elles ne veulent pas transmettre ça. Ou bien celles qui veulent absolument se séparer d'un monde jugé violent, injuste, commettant des exactions. Et là, oui, il se greffe une dimension politique, écologique.
Mais alors, est-ce qu'ils évoluent, ces trois groupes dont vous parlez? Est-ce que, par exemple, la préoccupation démographique et écologique prend de plus en plus de place ou pas du tout?
Oui, cette dimension prend de plus en plus de place. Et en fait, moi, personnellement, je crois que cette dimension-là repose sur un désir beaucoup plus profond et beaucoup plus personnel de ne pas avoir d'enfants. Je pense que la pression et même la répression à l'endroit des femmes qui font ce choix de non-maternité est tellement insupportable que finalement, c'est confortable de rajouter en plus à un désir profond de ne pas faire d'enfants, celui-ci, une justification au niveau démographique.
C'est une justification qui est mieux acceptée par la société.
Oui, c'est
en tout cas en France aujourd'hui.
Tout le monde s'inquiète de la surpopulation. Et je veux dire que c'est tout à fait légitime. C'est tout à fait légitime que ce troisième groupe mette en avant cette raison. Mais moi, qui les côtoie bien, qui les connais bien, je sais que ces femmes ont par ailleurs un désir réel, personnel, de ne pas avoir d'enfants. Et que pour réaliser leur épanouissement personnel, elles se tournent elles aussi vers ce que recherchent les deux autres groupes, c'est-à-dire qu'elles recherchent également, en parallèle, elles réalisent une relation fusionnelle, d'une part, et puis d'autre part, elles veulent également marquer le monde de leur empreinte, et elles s'engagent.
Alors, je me tourne vers Carole Mann, je rappelle que vous êtes historienne et sociologue. Finalement, cette décision de faire un enfant ou pas, elle est vertigineuse parce qu'elle mêle l'intime et le politique.
Oui, absolument. Mais en même temps, je crois qu'il faut le mettre dans un certain contexte. Deux facteurs semblent jouer. Est-ce qu'on parle de célibataires ou de personnes accompagnées? Est-ce qu'on et ensuite l'apparition de la contraception. Et il me semble que autrefois, je suis sûre qu'il y avait le même désir de ne pas avoir des enfants. Mais bon, il y avait l'obligation sociale, il y avait les avortements à répétition et à la fin, bon, ça marchait pas. Et ces personnes-là, on ne peut pas les comptabiliser. Et ça, je vois bien avec mes étudiantes quand je parle de pourquoi il faut canoniser Simone Veil. Parce que le choix est aujourd'hui possible, matériellement. Il ne l'était pas avant. Je pense aux gens de la génération de ma mère, même ma propre mère. Je veux dire, elle n'appartenait pas aux catégories que vous venez de décrire, ni oui. Carrière, ni fusionnelle, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais c'était une belle femme qui était jeune, qui sortait de la Seconde Guerre mondiale et qui avait envie de vivre. Et combien de femmes et combien d'entre nous, de l'ère avant la contraception, n'avons pas entendu « Ah, si tu n'étais pas là, j'aurais été X, Y, Z, président de la République, danseuse de cancan ou je ne sais pas quoi ». Non, je veux dire, ça aussi c'est important, il faut contextualiser historiquement.
Évidemment, et le contexte de la contraception rend aujourd'hui très tabou l'idée même de suggérer qu'on regrette d'avoir fait des enfants, Edith Vallée.
Mais justement, maintenant, c'est dit. Et en 2015, il y a eu deux études qui ont fait beaucoup de bruit, enfin dans le milieu, celle de Dorna Dona, qui a étudié justement cette question en Israël, et elle s'est rendue compte que elle a rencontré 23 femmes qui regrettaient d'avoir fait des enfants. Et puis il y a une étude en Allemagne d'un organisme du marketing YouGov qui dit qu'un parent sur cinq en Allemagne regrette effectivement d'être parent. Par ailleurs, vous avez une étude en 2013, Enduring Love, qui dit que souvent les couples sans enfants sont plus heureux que les parents.
J'espère que les enfants de Sophie n'écoutent pas la radio. Voici ce que nous écrit cette auditrice. Si je pouvais faire machine arrière à 54 ans, je n'aurais pas fait 3 enfants. Je paie le prix très chèrement aujourd'hui de mon investissement maternel. Virginie Resson.
Oui, ce que je trouve très intéressant, c'est la sensibilité de cette question et elle marche dans les deux sens. Vous évoquez la sensibilité, enfin la pression, les injonctions de faire des enfants ou la pression qui existe en France en particulier, d'ailleurs je pense que c'est très différent d'un pays à l'autre quand même, hein, mais en France en particulier sur le fait qu'une femme accomplie est une femme qui a des enfants. Une espèce de il suffit de voir les couvertures des journaux par exemple, la femme enceinte est forcément épanouie, etc. et en sens inverse, d'un point de vue de chercheur, quand on dit que la surpopulation est une question relative et qu'elle doit être posée de plusieurs façons et que il y a pas de réponse universelle, là on reçoit énormément de courriers. On a eu plusieurs fois des émissions sur la surpopulation mondiale ? Et on reçoit énormément de courriers quand on dit qu'on peut douter de la question, de la pertinence de la question telle qu'elle est posée. Et j'ai même été accusée d'être criminelle. Le dessous des cartes, on a reçu énormément de courriers.
Je précise que vous avez pendant des années été derrière le dessous des cartes, formidable émission sur Arte. Quand on dit ça, on est mal perçu.
Ah oui, très très mal perçu. Et c'est un sujet extrêmement polémique. Mais quand il est posé à l'échelle mondiale, c'est-à-dire qu'il y a contradiction, il y a une injonction très différente quand il s'agit des autres et quand il s'agit de la France.
Alors, je parlais tout à l'heure des sites internet qui font le décompte, hein, seconde par seconde, de la population mondiale. Le problème, c'est que j'y ai appris la date de ma mort. J'ai précisé que j'étais une femme vivant en France. J'ai indiqué ma date de naissance. Résultat, je vais mourir le 16 novembre 2073. Évidemment, tout ça n'est pas très sérieux, mais ça permet de comparer sa propre espérance de vie à celle du reste du monde. Et j'ai appris au passage que j'étais aujourd'hui plus vieille que 57% de la population mondiale. Ça fiche un coup de vieux. Et ça rend très concrète, finalement, cette question de la démographie.
Le débat de midi sur France Inter.
Il pleut des cordes sur le balcon, le vent s'engouffre dans la maison, les volets claquent vers la mer. Le ciel est bleu pourtant, tu regardes vers le nord, avis de grand frais à la fenêtre, Mère 5 à 7, forcissant dans ta tête, des crêtes d'écume au plafond, un orage dans le salon, dans la salle de bain du bas, détends-toi. C'est l'année la plus chaude de tous les temps, l'année la plus chaude de tous les temps, l'année la plus chaude de tous les temps, de tous les temps, de tous les temps. L'anticyclone des Açores est sur nous, la main de Dieu est sur nous. Les comètes géantes arrivent, le canapé dérive. Dans les muséums d'histoire naturelle, les os des dinosaures tremblent, les planètes s'entrechoquent. Et tu n'as encore rien vu, et tu n'as encore rien vu. C'est l'année la plus chaude de tous les temps, l'année la plus chaude de tous les temps, c'est l'année la plus chaude de tous les temps, de tous les temps, de tous les temps. L'année la plus chaude de tous les temps, l'année la plus chaude de tous les temps, l'année la plus chaude de tous les temps, de tous les temps, de tous les temps. Sur le balcon, le vent s'engouffre dans la maison, les volets claquent vers la mer. C'est l'année la plus chaude de tous les temps, l'année la plus chaude de tous les temps, l'année la plus chaude de tous les temps. C'est l'année la plus chaude de tous les temps, l'année la plus chaude de tous les temps. C'est l'année la plus chaude de tous les temps, de tous les temps, de tous les temps.
L'année la plus chaude de tous les temps, extrait du dernier album de Raphaël sur France Inter. Alors notre question du jour tourne autour de la démographie, des ressources disponibles, mais aussi des injonctions de la société. Et si on arrêtait de faire des enfants, vous êtes très nombreux à nous écrire.
Le débat de midi, Dorothée Barba.
Je ne me reconnais dans aucun des trois groupes cités par Edith Vallet, nous écrit cette auditrice. J'ai 36 ans, je suis mariée, je n'ai jamais voulu d'enfant, c'est tout. Pourquoi chercher une raison, une justification? Finalement, on ne demande pas aux mères de justifier leur désir d'enfant. Virginie Resson, autre auditeur qui nous dit « il ne faut pas arrêter d'en faire, il faut arrêter d'en avoir ». Nuance.
Ça pose oui.
La... Non, je voulais évidemment vous poser la question de la fécondité en Europe. Est-ce qu'on n'aurait pas déjà arrêté d'en faire en Europe?
En Europe, pas seulement en Europe d'ailleurs. Oui, on a. Alors en France, il y a un peu une exception puisqu'on a un taux de natalité qui est à 2 enfants par femme. C'est d'ailleurs ce qu'on appelle le seuil de reproduction des générations. Mais c'est un peu une exception puisque en moyenne en Europe, on a aujourd'hui 1, l'indice de fécondité moyen est de 1,6 enfants par femme. Et comme c'est le moyen, ça veut dire qu'il y en a qui sont inférieurs. En Allemagne, en Italie, on est à 1,4 enfants par femme. Ça veut dire que le solde naturel de la population, si on exclut l'immigration, le solde naturel de la population est négatif. C'est-à-dire que la population européenne est vouée à diminuer.
Je parlais tout à l'heure d'un dogme nataliste. Est-ce que vous me suivriez sur cette idée que c'est forcément une mauvaise nouvelle, en tout cas dans l'imaginaire collectif, que la natalité soit faible en France?
En France, oui. Je ne pense pas que ce soit le cas partout, mais en France, oui. Mais il faut l'associer à d'autres phénomènes. C'est-à-dire qu'une fécondité qui baisse, une natalité qui baisse, ça veut dire aussi un vieillissement beaucoup plus rapide. Ça veut dire un déséquilibre des générations. Ça veut dire un certain nombre de problèmes qu'il faut associer au vieillissement et qui, d'ailleurs, vont arriver. Ils vont arriver un petit peu plus tard en France, mais ils vont arriver aussi. De prise en charge des personnes plus âgées, de cotisation aux systèmes sociaux, etc. Donc, il faut poser la question dans la globalité. C'est pour ça que j'ai du mal, moi, à cautionner cette question de faut-il arrêter globalement ou est-on surpeuplé. Ce sont que des questions relatives.
Et d'ailleurs, je ne vous ai même pas encore posé la question, tout simplement, à toutes les trois. Virginie Resson, est-ce qu'il faut arrêter de faire des enfants, d'après vous?
Certainement pas.
Carole Mann, qu'en pensez-vous? Vous répondez quoi à cette question épineuse?
Non, mais certainement pas. Mais je voudrais simplement parler de qu'est-ce que signifie avoir des enfants dans d'autres endroits et d'autres contextes. J'ai beaucoup travaillé en Afghanistan parce que la mortalité maternelle et infantile m'intéresse beaucoup et les femmes dans la guerre aussi. Et je me souviens que j'ai eu une conversation avec une femme qui avait 8 enfants. J'étais assise chez elle. Elle me dit, mais je comprends pas. Vous, les Européens, vous n'avez pas d'enfants. J'en ai 2. Elle en avait 8. Mais pour elle, ça voulait dire qu'on n'en avait pas. Et en fait, qu'est-ce qui se passe dans ces pays, dans un pays comme l'Afghanistan? En même temps, j'entendais hurler des bébés. Il y avait un escalier en ciment absolument vertigineux et je voyais des bambins là-dessus et je n'arrêtais pas de sursauter. Elle, la mère, ne bougeait absolument pas. Elle m'a dit, mais non, mais ce sont les autres qui s'en occupent. Mais elle n'a pas bougé de l'après-midi. C'était assez extraordinaire.
Donc les enfants s'occupaient les uns des
autres.
Oui,
absolument. Mais il y a une raison très simple. C'est l'assurance vieillesse, les enfants. Je veux dire, qui s'occupe? Les gens ont des enfants dans ces pays-là parce qu'il n'y a personne pour s'occuper d'eux quand ils sont vieux.
Un auditeur nous écrit la même chose. Hein. Olivier, que devient-on lorsque les forces et la raison nous quittent en prenant de l'âge si on n'a pas créé de famille? Devenir une charge pour ses enfants n'est pas une idée réjouissante, mais c'est bien plus humain qu'être un vieux sans famille tel qu'on en rencontre trop souvent. La préoccupation existe aussi en Europe. Edith Vallée.
Oui, je voudrais répondre, d'abord à la première
question.
Moi j'ai tout à fait envie de transmettre. Je n'arrête pas de transmettre et autrement qu'à travers les enfants. Et je voudrais répondre.
Donc, vous répondez plutôt oui, vous, à la question.
Faut-il continuer de faire des enfants? Oui, bien sûr.
Mais vous, à titre personnel, vous n'en avez pas voulu et assumez ce choix?
Et oui, j'ai parfaitement assumé. Et je voudrais justement dire à la personne qui se retrouve pas dans les trois groupes qu'elle a parfaitement raison. Mais je la comprends absolument. Ça veut dire qu'elle n'en peut plus de cette pression, de cette justification à laquelle nous sommes toutes les child-free, à laquelle nous sommes...
Et child-free, donc les femmes qui n'ont pas d'enfants.
Les femmes libres d'enfants. Child-free, libre d'enfants. Nous n'en pouvons plus de cette pression, de ce regard qui nous marginalise. Et il faut toujours se justifier. Et c'est ce qu'elle est en train de dire. Mais pourquoi chercher des raisons? Alors, moi, je l'ai fait parce que justement, quand j'ai commencé ma thèse sur ce sujet, je me sentais très seule et je voulais répondre. Et maintenant, je suis heureuse de pouvoir dire il y a tant de femmes qui sont child-free et qui se réalisent véritablement et se sentent complètement épanouies.
Selon une étude américaine publiée la semaine dernière, la planète se dépeuple de ses espèces animales à une vitesse alarmante. L'espèce humaine pourrait-elle être aussi menacée, Virginie Resson?
A priori, c'est plutôt elle qui menace les autres espèces. C'est plutôt dans ce sens-là que ça marche, puisque effectivement l'empreinte biologique de l'humanité s'accroît à une très grande vitesse, et parmi les effets de cette empreinte, de cet impact des activités humaines sur son environnement, il y a effectivement la baisse de la réduction de la biodiversité et donc des espèces. Maintenant, on n'a pas tous la même responsabilité et tous le même rôle dans cette pression biologique sur la planète. Il faut, je vous donne juste 2-3 chiffres pour remettre les choses en place. En termes d'empreinte CO2, c'est-à-dire d'émissions moyennes de gaz à effet de serre, on va dire, par habitant. En Europe, on est à 6... Pardon, l'empreinte écologique, on va partir plutôt sur l'empreinte écologique, qui se mesure en superficie par habitant. Donc on est en Europe, on est à 4,54 hectares par habitant. Aux États-Unis, ils sont à 8,41. En Chine, on est à 3,51. Et je reviendrai sur le cas de la Chine. Et en Afrique, on est à 1,4. Tout ça pour dire, tout ça pour parler de cette idée de surpopulation, c'est-à-dire que la surpopulation, elle est relative parce qu'elle renvoie à la finitude des ressources de la planète. On sait que les ressources de la planète sont finies et qu'il faudra les partager. Effectivement, plus on est nombreux, plus il faudra les partager. Maintenant, le partage est parfaitement inégal. Donc la question est de savoir si c'est à ceux qui en consomment le plus de réduire leur consommation ou si on peut infliger, je dis bien infliger parce que c'est un choix qui ne serait pas libre, à des femmes de ne pas avoir d'enfants au titre, au nom du fait que d'autres souhaitent garder regarder leur mode de vie. C'est un petit peu, je caricature à peine le débat. Et je voulais juste, par rapport à la question, ce que vous disiez juste avant, rajouter une catégorie, parce que je pense qu'il y a beaucoup...
Donc, une catégorie de femmes qui ne veulent pas d'enfants.
Non, pas qui ne veulent pas d'enfants.
Qui n'ont pas.
Quatrième catégorie de femmes, c'est celles qui désirent profondément un enfant et qui n'arrivent pas à en avoir. Parce que ça me paraît extrêmement important. C'est pas, au-delà de l'injonction, il y a ce désir très grand et cette frustration, donc les child-free, mais malgré elle.
Voilà. Oui, alors là, je voudrais dire qu'effectivement, les child-free ont des choses à dire à ces femmes. C'est vrai que c'est extrêmement sensible et c'est douloureux pour une femme qui voudrait avoir un enfant et ne peut pas réaliser son vœu. C'est douloureux de rencontrer une child-free, a priori. Sauf que justement, ce qui est extrêmement important, c'est que les child-free expriment dans leur vie, dans leur corps, qu'elles se réalisent très bien hors maternité. Et je dirais aussi, il y a une autre catégorie de population qui bénéficie de l'échange avec les child-free. Je dirais que tout simplement, ce sont les mères. Et j'ai remarqué une évolution au cours des mentalités récentes. Ça fait 2-3 ans que les mères se sentent immédiatement en complicité avec une child-free. Parce que elles incarnent l'idée qu'elles ne sont pas réduites à la maternité.
Et ça leur rassure celles qui en ont fait finalement.
Ça rassure celles qui en ont fait parce que ça les déculpabilise par rapport à leurs envies et à la réalisation de cette envie aussi de faire d'autres choses pour elles-mêmes. Et du coup, elles pensent il s'agit de partager un peu les choses avec le père.
Ça, c'est intéressant. Et vous diriez que c'est un phénomène récent?
Oui, je pense que c'est un phénomène tout à fait récent. J'avais observé, surtout auparavant, beaucoup des réactions de rejet de la part des mères. D'une part, parce qu'elles pouvaient être frustrées. Elles en avaient assez de voir ces femmes, les child-free, libres de leur temps, courir après leur carrière, avoir plusieurs amants, etc. Bon, c'est frustrant à la limite. Elles se sentaient aussi un petit peu déconsidérées. La maternité n'est plus sur un piédestal. Mais maintenant, elles rencontrent à l'intérieur, avec les child-free, quelque chose qu'elles n'osaient pas dire, qu'elles n'osaient pas affirmer.
Carole Mann.
Oui, non, mais cela impliquerait que les femmes qui n'ont pas d'enfants sont merveilleusement épanouies, font ce qu'elles veulent, et ainsi de suite. Mais c'est pas du tout le cas. Je veux dire, les contraintes sociales sont là. Et le fait d'avoir des enfants, bien sûr, cela implique des contraintes choisies ou pas choisies selon les cas, mais on peut pas faire ce contraste entre toutes les femmes qui n'ont pas d'enfants sont des Simone de Beauvoir et les autres sont derrière les couches et les torchons. Je ne sais pas, il peut y avoir un échange entre le fait d'avoir des enfants aujourd'hui et une carrière. Pour moi, je veux dire, ça peut aller ensemble et ailleurs aussi. Et je reviens à Israël parce que votre exemple est israélien.
Donc c'était sur l'étude concernant les femmes qui regrettent d'avoir fait des enfants.
Oui, non, mais il faut voir ce que c'est la vie en Israël quand vous savez que votre fils va être au service militaire pendant 3 ans et votre fille pendant 2 ans, donc risque la mort. Moi, j'ai rencontré des groupes de mères en Israël et dans les territoires occupés. Savoir que ces jeunes, qu'ils soient du côté israélien ou palestinien, risquent la mort tous les jours à partir de l'âge de 18 ans. Ça suscite un nombre de maladies et de regrets. Il faut contextualiser tout ça. La question se pose dans les pays européens où on n'a pas ce type de contraintes, où le choix est réel et où nos enfants n'ont pas ce risque de mort. Et c'est ça qui est très important aussi, toujours le contexte.
Edith Vallée.
En France, vous avez raison, bien sûr, il faut le contextualiser. Et c'est pour ça que j'ai écrit le livre aussi, Pas d'enfants, dit-elle, qui parle, mais des femmes françaises. Et depuis peu, il y a des femmes françaises aussi qui viennent dire qu'elles regrettent de ne pas avoir fait d'enfants. Et où est-ce que je les ai rencontrées pour la première fois? Dans les manifestations. Elles se sentent...
Manifestations de quoi?
De féministes. Et elles se sentent assez isolées et elles viennent vers moi parce que j'ai souvent une pancarte qui est en rapport avec cette question. Alors, elles viennent vers moi et elles me disent, je peux vous dire quelque chose. Moi, je regrette, j'adore mes enfants. Ça, c'est sûr, j'adore mes enfants, mais j'aurais bien aimé ne pas en avoir.
Et les hommes dans tout ça, merci d'aborder ce sujet tabou, nous écrit Pierre. Ma compagne et moi sommes nullipares et fiers de l'être. Alors, nullipare, ça veut dire qu'on n'a pas d'enfants. Je sais que le terme ne s'emploie en théorie que pour les femmes, écrit cet auditeur, mais je m'y retrouve également. Quel sens tu vas donner à ta vie ? As-tu beaucoup entendu sa compagne, apparemment. Alors que pour l'homme, écrit-il, la réalisation peut passer par d'infinis projets. Être père serait une fonction accessoire et facultative. Et Pierre conclut ainsi son très long courriel. Si j'avais la certitude que l'enfant que je mettrais au monde et qu'ensuite ses enfants et les enfants de ses enfants seront meilleurs que moi, plus sages, moins cupides, plus pacifiques et moins violents, alors je me lancerais dans l'entreprise. Mais sans cette certitude, ne pas avoir d'enfant sera peut-être le seul acte réellement écologique de ma vie.
Água corre sobre a pedra, fio que descarrega. O ouro nem sempre doura a pele, a luz nem sempre é veloz. Todo verde é transparente e treme ao vento. Dia alto e bate palma, cai a noite e esconde a voz. O seu pai era bandido, mas você apareceu. O seu pai era bandido, mas você apareceu. Nunca é uma vez, nunca mais uma coisa só. Nunca é de uma vez, nunca mais uma coisa só. Nunca é de uma vez, nunca mais uma coisa só. Água corre sobre a pedra, fio que descarrega. O ouro nem sempre doura a pele, a luz nem sempre é veloz. Tudo verde é transparente e treme ao vento. O dia alto e bate palma, cai a noite, esconde a voz. O seu pai era bandido, mas você apareceu. O seu pai era bandido, mas você apareceu. Nunca é de uma vez, nunca mais uma coisa só. Nunca é de uma vez, nunca mais uma coisa só. Nunca é de uma vez, nunca mais uma coisa só. Nunca é de uma vez, nunca mais uma coisa só.
Un chanteur américain qui a grandi au Brésil et chante en brésilien, c'était Arto Lindsay Seu Pai. Le débat de midi est préparé par Camille Blanès et Gabriel Debray avec l'aide de Nouria Dahan. Réalisation Sonia Leglen. À la technique aujourd'hui, Théo Gomard et Léo Prangère. Question un peu provocatrice au cœur de notre débat du jour. Et si on arrêtait de faire des gosses? Avec trois invités, Virginie Resson, auteure de 2038, Les futurs du monde chez Robert Laffont. Carole Mann, sociologue et historienne, spécialiste des bébés notamment dans l'histoire, et Edith Vallée, psychologue sans enfants, qui a travaillé sur ceux et celles qui ne veulent pas d'enfants.
Le débat du midi, Dorothée Barba sur France Inter.
Virginie Resson, j'aimerais vous faire réagir à cette phrase prononcée par Emmanuel Macron lors du récent sommet du G20 en Allemagne, à la question de savoir s'il fallait un plan Marshall pour l'Afrique. Il a répondu « Quand des pays ont encore 7 à 8 enfants par femme, vous pouvez décider d'y dépenser des milliards d'euros, ça ne changera rien, vous ne stabiliserez rien ».
C'est exactement prendre le problème en sens inverse. Moi, j'étais profondément choquée, je dois dire, par cette phrase. Puisque quand vous regardez sur la durée et l'évolution démographique d'un certain nombre de pays, vous vous rendez compte que c'est une contre-vérité. C'est-à-dire que en réalité, d'abord, il faut remettre les choses dans leur contexte historique cette fois. La transition démographique que nous avons achevée en Europe, elle est en cours en Afrique. C'est-à-dire qu'on a le même phénomène démographique qui correspond à la chute de la mortalité puis qui sera suivie plus tard de la chute de la fécondité. Ce phénomène-là a eu lieu d'abord en Europe, puis en Asie, et aujourd'hui il a lieu en Afrique. Entre-temps, il y a une période d'accroissement de la population. Mais nous allons retrouver, à la fin du siècle, les proportions démographiques relatives entre continents similaires, à Amérique mise à part évidemment, mais similaires à celles du XVIe siècle, c'est-à-dire avant la transition démographique. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on s'est rendu compte, avec l'émergence économique d'un certain nombre de pays, que la fécondité a chuté très très rapidement, mais beaucoup plus rapidement qu'en Europe d'ailleurs, en Thaïlande, au Brésil, en Égypte, etc. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le niveau d'éducation s'élève, le niveau d'éducation des filles en particulier, et la contraception est disponible, on voit les taux de fécondité chuter. Donc ça, c'était et sans moyens économiques pour envoyer les petites filles à l'école, par exemple, c'est un exemple parmi d'autres, il y a d'autres mesures, mais il est évident qu'on ne pourra pas réduire et que la démographie, enfin la fécondité des femmes en Afrique. Il faut toujours ramener ensuite, oui, le dernier élément, il faut ramener ça à la mortalité, c'est-à-dire que 7 en 8 enfants à la naissance, ça veut pas dire qu'il en reste 7 ou 8 à l'âge adulte, puisqu'il y a encore un taux de mortalité important. Donc voilà, c'est une phrase qui me paraît dire exactement l'inverse de ce qu'on voit en général.
Alors, selon les prévisions de l'ONU, en 2050, un quart de la population mondiale sera africaine. Qu'est-ce qu'il y a derrière, à votre avis, derrière ces propos d'Emmanuel Macron? Qu'est-ce que vous dénoncez précisément?
Moi, je dénonce simplement le fait qu'il s'appuie sur... Il ne démontre pas quelque chose, c'est une affirmation politique, mais qui ne correspond pas à une réalité démographique.
Mais ça révèle aussi quelque chose d'important, c'est qu'il y a beaucoup d'idées reçues sur ce sujet de la démographie.
Alors justement, sur l'Afrique, je voulais juste remettre en perspective... J'essaye de
il y a beaucoup de chiffres sur vos petits papiers sur la table.
Oui, au cas où, parce que précisément, j'aime bien parler d'être le plus précise possible. Je vais vous donner deux exemples d'idées reçues. Donc, effectivement, le taux de fécondité en Afrique, il est beaucoup plus élevé aujourd'hui le taux de fécondité est beaucoup plus élevé aujourd'hui en Europe qu'en Afrique, mais on s'aperçoit qu'en Afrique, il va chuter.
En Afrique qu'en Europe.
Oui, pardon, en Afrique qu'en Europe, excusez-moi. Mais en Afrique, il va énormément chuter d'ici la fin du siècle. Donc on aura un taux de démographie, de toute façon, naturellement, qui va descendre. Simplement, vous avez une inertie, ce qu'on appelle l'inertie démographique, c'est-à-dire qu'à partir du moment où, même si les femmes font seulement 2, entre guillemets, 0,5 enfants par... chacune, mais si vous appliquez ça à une population nombreuse, forcément la population continue d'augmenter. Donc ça, c'est simplement mathématique. Et la deuxième idée reçue qui me paraît importante, enfin je voudrais citer à cette occasion-là, de dénoncer, c'est sur la fécondité des femmes d'origine étrangère en France. Parce que là aussi, on a
beaucoup de fantasmes.
Alors, le taux de fécondité des femmes d'origine étrangère en France est effectivement plus élevé. Il est de 2,6 enfants par femme contre 1,9 pour les enfants d'origine française. Maintenant, c'est quelque chose qui évolue dès la seconde génération, c'est-à-dire que les filles des femmes nées à l'étranger, mais qui sont nées en France, elles ont exactement le même nombre d'enfants que les femmes d'origine française. Donc, tout ça pour dire que l'immigration n'augmente pas la population française sensiblement.
Juste un mot, tout à l'heure, quand j'ai lu le courriel d'un auditeur qui dit « c'est le seul acte écologique que j'ai fait de ne pas avoir d'enfants », vous avez répondu pendant le disque c'est écologique ici, en France.
Oui, c'est écologique, mais ça n'a pas de sens pour quelqu'un qui est au Niger ou au Mali, évidemment.
Carole Mann, question évidemment très culturelle, mais aussi très économique, ce choix, ce désir d'enfant.
Le désir d'enfant, bon, il a une histoire en Europe. Parce qu'on faisait, pour ainsi dire, des enfants par obligation sociale, pour la survie de l'espèce, et surtout chez les riches, pour la distribution des couronnes et pour des raisons politiques. Ce désir d'enfant, il remonte à partir de Madame de Sévigné, le 18e. L'enfant, parce que les conditions sont meilleures, les vaccins sont inventés et ainsi de suite, les conditions de vie sont meilleures, les chances de survie sont meilleures, donc soudain on s'attache aux enfants. Et peut-être...
On s'y attachait pas par le passé.
On s'y attachait beaucoup moins. Montaigne ne savait pas très bien combien d'enfants il avait perdu, par exemple. Elisabeth Badinter a écrit son fameux livre L'amour en plus, les enfants partaient en nourrice. Mais en même temps, on vit dans une société... Enfin, en Europe chrétienne, l'icône de la Vierge Marie et du bébé existe. Mais c'est l'Immaculée Conception, donc la sexualité qui est censée accompagner tout ça, est fautive, donc c'est extrêmement ambigu. L'amour de l'enfant, mais je voudrais simplement rebondir sur ce que vous aviez dit il y a une minute, je crois que toutes ces vociférations nationalistes d'extrême droite... au sujet du manque d'enfants, il s'agit d'enfants blancs, évidemment. Il faut pas oublier qu'au centre de tous ces débats, il y a cette peur de la disparition de la soi-disant race, entre guillemets, blanche. Et c'est bien cela qui inquiète tout le monde.
Ça rejoint ce que nous écrit un auditeur. Et si on arrêtait simplement en France d'idéaliser et d'encourager la natalité par certaines politiques fiscales, sociales? Un autre auditeur nous a écrit, je crois, qu'on peut considérer que l'idée même que l'école maternelle soit gratuite est une politique nataliste. Carole Mann.
Je ne sais pas. Enfin,
dans d'autres pays, c'est une politique antinataliste, puisque je vais me répéter, mais c'est la scolarité des filles qui permet petit à petit de mieux contrôler la démographie et la natalité.
Mais ça rejoint aussi cette question un peu compliquée. Est-ce qu'on fait des enfants pour les allocations, pour le dire très vite, Carole Mann?
Oui, il y a tout ça. Enfin, il y a tous ces débats de droite qui datent d'extrêmement, enfin, qui ne sont pas neufs. Et on n'a qu'à regarder la rhétorique péténiste qui opère encore quelque part. Hein. Travail, famille, patrie. Ouais. C'est dans le fond, l'arrière-fond de beaucoup de réflexions.
Edith Vallée, la France est un pays nataliste, d'après vous?
Oui, je pense que bien sûr, la France est un pays nataliste, sinon elle ne serait pas aussi répressive vis-à-vis des child free.
Répressive?
Oh oui, je dis enfin répressive, oui, je peux vous donner un exemple, c'est que l'évolution du regard, maintenant on ne peut plus contester aux femmes le droit de faire des enfants, le droit de choisir leur vie, et quand elles ne font pas d'enfants, eh bien on répond, elles ont certainement le droit, mais elles ne sont pas épanouies, elles ne sont pas heureuses. Moi, je trouve que ça, c'est vraiment, si on pouvait les envoyer au bûcher, c'est plus l'époque, mais
ce que vous dites, parce que vous disiez tout à l'heure que ça a évolué. Pour résumer les choses, il y a plus d'attaques directes, mais il y a une forme de suspicion.
Il y a une forme de suspicion indirecte, et puis
ça fait bondir Virginie Risson. Je vous donne la parole.
Allez-y. Non, ça ne fait pas bondir, mais ce qui est fou, c'est que chacun, enfin vraiment, c'est une question de point de vue. Parce que pour avoir moi-même trois enfants, je me suis entendue dire à la naissance de la troisième par des écologistes, mais comment tu as osé faire un truc pareil? Alors j'ai le bébé dans les bras. Donc on est culpabilisé aussi quand on a une famille nombreuse.
Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que vos trois enfants, on les voit dans votre livre qui raconte le futur. Ils sont toujours de dos. Pourquoi c'était important de les faire figurer dans cet atlas?
Parce que l'idée de travailler sur le futur et de rechercher comment est-ce qu'on peut aménager le futur et le choisir plutôt que le subir, pour moi, c'est extrêmement concret. C'est dans quel monde vont vivre mes enfants, sachant que je suis à la préhistoire de leur histoire, sur le plan technologique. Il est important d'y réfléchir et j'ai toujours en mémoire que ce n'est pas abstrait le futur, c'est quelque chose que mes enfants vont traverser. Voilà pourquoi
Qu'on en ait ou pas, on est toujours stigmatisé finalement, Carole Mann.
Il faut voir, après la Première Guerre mondiale, j'avais publié des textes dont je me souviens, je ne peux pas les citer comme ça, mais on a culpabilisé les femmes françaises pour la défaite. On a dit c'est à cause des femmes parce qu'il y avait une baisse démographique qui s'amorce à la fin du 19e siècle, qui est très important. Enfin, cette baisse démographique dont on parle, elle a à peu près 150 ans au moins. Et d'innombrables textes paraissent pour culpabiliser les femmes pour leur égoïsme parce qu'elles ne fabriquent pas de la chair à canon. Et d'ailleurs, dans les années 30, même l'Union soviétique égalitariste sous Staline... Staline interdit la contraception. Non, il n'y a pas la contraception à l'époque, c'était l'avortement, l'avortement légal. Staline l'interdit en 36 et partout il y a cette poussée de faire son devoir patriotique et la femme qui n'a pas d'enfant est égoïste et elle est extrêmement mal vue. Mais
un auditeur nous écrit. Pardon, je vais terminer.
D'accord.
Allez-y, terminez cette phrase.
Mais je me souviens quand j'étais dans le métro avec deux petits enfants, on m'engueulait. Vous emmenez vos enfants dans le métro et on m'engueulait.
Encore et toujours les injonctions de la société.
Prenez donc des taxis, vous êtes une mère, qu'est-ce que c'est que ça?
Vous me parliez tout à l'heure d'adolescents épouvantails, Carole Mann. Rapidement, on arrive au terme de l'émission.
Je crois que peut-être ce qui fait peur à certaines mères, c'est cet adolescent épouvantail qu'on voit de plus en plus. Parce que c'est une icône de la société, la présence des adolescents, à la fois économiquement, parce que c'est un marché extrêmement important, et sa virulence que ça n'a pas eu. Bon, ça évolue depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Mais ces adolescents forcément drogués, qui vont redoubler, qui vont rendre leurs parents misérables et qui sont la source de tous les malheurs du monde, je me demande si ça ne fait pas peur. Moi, j'étais en choc total quand mes enfants sont devenus adolescents.
C'était un choc pour vous.
Oui,
l'histoire montre que non, pendant plusieurs décennies, les gens n'ont pas eu peur de ne pas faire d'enfants. Au contraire, c'est une chose tout à fait naturelle. Par exemple, pour les Grecs anciens, il faut savoir que les mythes qui sont le miroir de l'humanité, eh bien, la moitié des déesses de l'Olympe a fait le choix de ne pas avoir d'enfants. Ah. Et on retrouve parmi les trois déesses de l'Olympe, justement, mes trois groupes dont j'ai parlé tout à l'heure.
Les trois raisons de ne pas en faire.
Les trois courants, oui. Ensuite, par exemple, entre le 2e et le 12e siècle, les gnostiques pensaient que le monde était tellement injuste, tellement violent, qu'il valait mieux ne pas faire d'enfants.
Et ça rejoint énormément de réactions d'auditeurs qu'on a reçues. Il est 12h51 sur France Inter. On va écouter à présent un homme qui a eu 12 enfants de 9 femmes différentes. Voici Ray Charles. Now my room has got 2 windows, but the sun shall never come through. You know it's always dark and dreary since I broke off baby with you. I live on a lonely avenue. My little girl wouldn't say I do. But I feel so sad and blue. And it's all because of you. I live on lonely avenue. Oh, lonely, yes, sir. Avenue. Now you know my covers, they feel like lead. And my pillow, it feels like stone. Well, I toss and turn so every night. I'm not used to being alone. I live on a lonely avenue. My little girl wouldn't say I do.
Since you left this town, you know if I could beg or borrow the money, child, I would be a highway bound. I live on a lonely avenue. My little girl wouldn't say I do, but I feel so sad and blue. You know it's all because of you.
Lonely Avenue, c'était Ray Charles sur France Inter. Il est temps de poser à mes trois invités la question rituelle.
Le débat de midi sur France Inter.
la question à laquelle ont droit tous les invités du débat de midi. Sur quel sujet avez-vous déjà changé d'avis? On commence avec vous, Carole Mann.
D'accord. Oh, bah, j'ai souvent changé d'avis quand même. Peut-être une des plus marquantes, c'est sur la question du voile. En 2004, je faisais partie des gens complètement contre le voile. Et à partir de ce moment-là, j'ai beaucoup, beaucoup voyagé dans des pays musulmans en guerre. Et je suis arrivée à la conclusion qu'il vaut mieux avoir une mode avec des voiles colorés et que c'est la seule chose qui peut nous sauver du voile intégral. Parce que j'ai, entre l'Afghanistan et d'autres pays de ce genre dans lesquels j'ai pu voyager, seule la mode peut le contrer. C'est d'ailleurs le sujet de mon dernier livre qui vient de sortir, qui s'appelle « De la burqa afghane à la hijabista mondialisée ». En France, on s'est tellement énervé pour ces aspects de la mode. Mais la mode et la frivolité vont tellement contre l'islamisme que finalement, c'est la seule solution.
Oh. Edith Vallée, c'est à vous. Sur quoi avez-vous changé d'avis?
Alors, moi, j'ai changé d'avis sur la prostitution. Dans l'absolu, je me fondais sur l'évidence « mon corps m'appartient » et je me disais que si une femme exerce librement sa profession de péripatéticienne, eh bien, c'est bien, il n'y a rien à redire. Et puis, je suis allée à une manifestation où j'ai rencontré un groupe de prostituées. Elles m'ont parlé de leur métier en termes d'indépendance et de satisfaction. Et puis, après, moi, j'ai eu un choc, mais je me suis dit, mais c'est pas possible de faire l'économie de toutes les autres femmes qui sont malmenées, exploitées, violentées. Et j'ai conclu très vite qu'au nom des valeurs, on n'a pas le droit de faire l'économie de la réalité. On vise des valeurs. On ne vit pas dans les valeurs, on les vise.
Et c'est à vous de jouer, Virginie Resson. Sur quel sujet avez-vous changé d'avis?
Sur beaucoup de sujets aussi.
Avec les imbéciles.
Voilà. Mais je vais remonter à assez longtemps, à mon adolescence, en fait. La première fois que j'ai vraiment changé d'avis. Grâce à un professeur de français qui s'appelait Dominique Dufayard, en l'occurrence, je me souviens très bien, et qui, je sais pas, je devais avoir 13, 14, 15 ans, j'en sais rien, j'étais au collège, et qui nous a mis un samedi matin, on était furieux contre lui, une interro surprise, je sais plus pour quelle raison, pour nous punir de quelque chose. Et le sujet de l'interro surprise, c'était « Êtes-vous pour ou contre la peine de mort ?» Et à l'époque, moi, je me disais « Ah ouais, non, je suis contre, mais je suis pour quand même pour ceux qui tuent les enfants. » Enfin bon, j'étais dans une idée reçue auquel je n'avais jamais réfléchi. Et puis j'ai commencé, c'est à l'époque où on apprend à faire les dissertations, alors faire les arguments pour, le contre, la synthèse, thèse, antithèse, synthèse. Et là, tout d'un coup, j'arrive à la conclusion « Donc, je suis contre la peine de mort. » Et c'est la première fois que j'ai réalisé ce que c'était que la liberté de penser et de choisir.
On était avant 1981 peut-être ou pas du tout, non?
Évidemment, oui.
L'abolition en France de la peine de mort.
On était à peine avant 1980.
C'était peut-être un sujet d'actualité à l'époque. Merci beaucoup à toutes les trois. Je rappelle les références de vos livres sur le sujet. « Pas d'enfant, dit-elle », d'Edith Vallée, à lire chez Imago. « Chérubins et morveux, bébés et layettes à travers le temps », un livre signé Carole Mann chez Pygmalion. Et puis cet atlas futuriste signé Virginie Resson, « 2038, les futurs du monde », disponible chez Robert Laffont.